Je suis féministe sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, notre invitée du jour, originaire de Bourg-en-Bresse, est devenue une figure incontournable du mouvement féministe actuel. Elle prouve au travers de son discours et de son action que le féminisme est toujours d'actualité et un combat motivant et libérateur. Je suis féministe. Caroline Dehas, bonjour.
Bonjour.
J'entame toujours mes interviews avec cette question. Est-ce que c'est facile pour vous de dire « je suis féministe » ?
Non seulement c'est facile, mais c'est enthousiasmant. C'est-à-dire que quand je dis « je suis féministe », d'abord aujourd'hui en France, l'immense majorité des gens me regardent en disant « oui, moi aussi, d'accord ». C'est-à-dire qu'on n'est plus tout dans la même situation d'il y a 10 ans, où quand vous disiez « je suis féministe », les gens faisaient « est-ce que vraiment il y a encore besoin d'être féministe ? » Aujourd'hui, quand vous dites « je suis féministe », en fait, la majeure partie de la population, d'ailleurs les statistiques le montrent, par exemple, on sait que plus de 80% des jeunes femmes et des jeunes hommes se déclarent féministes. Donc les choses, elles ont quand même radicalement changé.
C'est quoi votre définition du féminisme ?
Pour moi, le féminisme, c'est d'abord prendre conscience qu'il existe encore en France des inégalités très fortes entre les femmes et les hommes, et notamment des violences sexistes et sexuelles très importantes. Et c'est une deuxième chose, c'est d'avoir envie de faire bouger les choses. Donc le féminisme, pour moi, c'est à la fois de la connaissance, de la conscience de la situation, et c'est une envie de se mobiliser, de changer les choses, de faire reculer, voire disparaître les violences.
Vous êtes née ici, à Bourg-en-Bresse, vous avez passé votre scolarité ici. Est-ce qu'à l'époque, déjà, quand vous étiez là, que ce soit en famille ou à l'école, vous vous posiez des questions autour de votre genre ?
Non, moi, j'ai pas été... En fait, ma sensibilisation aux questions féministes, elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée plutôt quand j'étais étudiante à Lyon. Mais quand j'étais à Bourg, j'étais au collège Saint-Roch, puis après au lycée Edgar Quinet, puis après au lycée Caria. Cette question-là n'était pas vraiment présente. Et d'ailleurs, c'est hyper enthousiasmant de voir les nouvelles générations. Aujourd'hui, ces questions-là, elles sont massivement abordées par les lycéens, les lycéennes, voire même par les collégiens, les collégiennes. Moi, à mon époque, je n'ai pas du tout le souvenir que c'était un sujet pour nous. Je pense qu'on était un peu hermétique, en fait. On ne voyait pas la réalité des inégalités, la réalité du sexisme. Et résultat, je pense qu'on m'aurait dit « est-ce que tu veux t'engager pour l'égalité ?» J'aurais dit « oui, mais bon, pourquoi ?»
Vous êtes une des figures emblématiques du mouvement féministe en France. Le 4 mars a paru « En finir avec les violences sexistes et sexuelles » chez Thierry Lafon. Ce livre est construit comme un manuel, un outil pour lutter contre toute forme de violence. Ça passe par 3 étapes, selon vous, informer, comprendre et agir. Et vous commencez le livre avec des chiffres, pardonnez, des chiffres clés. Lesquels vous pourriez nous donner aujourd'hui pour nous faire réagir ?
Il y a plein de chiffres sur la question des violences qui sont utiles. Les chiffres, c'est utile parce que ça permet de percuter l'idée reçue selon laquelle, globalement, ça va, tu n'as pas de plainte quand même. Bon. Et en fait, dès que vous donnez les chiffres, vous montrez que globalement, ça ne va pas bien. Alors, ça va sans doute mieux qu'il y a 150 ans, ça va mieux que dans certains pays du monde, mais globalement, ça ne va pas très bien quand même. Donc, parmi les chiffres que moi, je donne, le premier, c'est le nombre de femmes en France qui sont victimes de violences au sein de leur couple, c'est 200 000. Le deuxième, c'est le nombre de femmes qui ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail, c'est 32% des femmes salariées en France. Et le troisième, c'est la part des Françaises et des Français qui ont été victimes de maltraitance sexuelle dans leur enfance, donc de violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est 16% de la population française. Donc on voit bien là qu'on n'est pas complètement sorti de l'auberge.
Au-delà des chiffres, il y a aussi les notions en fait, qui sont floues pour beaucoup d'entre nous. Et je m'en suis rendu compte en lisant le livre. Parfois même, on minimise. Pourquoi c'est aussi flou d'après vous ?
D'abord, je pense qu'on a un problème d'éducation populaire et d'éducation collective dans le pays. Vous prenez la question du code de la route ou de la sécurité routière. Dès le plus jeune âge, à l'école, on est sensibilisé à ces questions-là, à l'école primaire, au collège, au lycée. Donc, on se constitue en France une forme de conscience collective sur la question de la sécurité routière, par l'éducation, par la prévention, par les campagnes de communication, par les prises de parole des présidents de la République à la télévision. Cette prise de conscience collective sur la question des violences, elle n'existe pas vraiment, en fait. Il n'y a pas d'éducation, ou très peu, il n'y a quasiment pas de formation des professionnels, et puis, il y a très peu de campagnes de communication. Et donc, résultat, chacun, chacune, vous comme moi, on va avoir tendance à ne pas savoir identifier la réalité des violences. Par exemple, on va dire qu'une main aux fesses, c'est du harcèlement sexuel. Alors qu'en fait, une main aux fesses, c'est une agression sexuelle, c'est plus grave. On va dire que quelqu'un qui, dans l'entreprise, fait souvent des remarques sexuelles, met mal à l'aise les gens en leur tenant des propos qu'on va qualifier de déplacés, de graveleux, bon. En fait, ça, c'est un nom, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Mais nous, on va appeler ça de la drague lourde. Ouais, il est un peu relou. Et on va avoir tendance à utiliser d'autres mots qui vont en fait déqualifier, banaliser la réalité des violences.
Justement, il faut les caractériser, ces violences, hein, c'est ce que vous dites, vous mettez des réalités en face de ces notions. Un exemple très concret, la zone grise, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Quand on parle de zone grise, en général, on sous-entend qu'il y aurait une sorte de zone entre le harcèlement, entre la drague et le harcèlement, une zone où on n'est pas très sûr que ce soit de la drague ou du harcèlement. Moi, je pense que cette zone grise, c'est un mythe, en fait, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a inventé pour nous faire croire que la drague et le harcèlement, c'était globalement à peu près la même chose. Comme si le harcèlement, c'était de la drague plus plus, vous savez, la drague appuyée. Et comme si c'était une histoire de degré entre les deux. En fait, la différence entre la drague et le harcèlement, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature de relation. Soit vous êtes dans une relation entre adultes consentants, vous respectez l'autre, vous respectez le consentement de l'autre. Vous draguez la personne. La personne veut, merveilleux, magnifique histoire d'amour ou plan cul d'un soir qui commence, peu importe, bon, cela ne nous regarde pas. La personne ne veut pas. On appelle ça un gros râteau. Bon, c'est très désagréable de se prendre des râteaux, mais en fait, c'est la vie, ça arrive, c'est comme ça. Bon, et on passe à autre chose. On ne va pas venir, en fait, aller contre le consentement de l'autre et continuer à lui parler de choses dont elle n'a pas envie d'entendre parler. Le harcèlement, c'est pas ça. Le harcèlement, c'est d'en avoir rien à faire du consentement de l'individu qui est en face de nous. En fait, ce n'est pas un respect de l'autre, ce n'est pas une relation d'égal à égal, c'est une relation de domination et de violence. Donc, il y a vraiment une nature différente. Et donc, il n'y a pas de zone grise entre les deux, parce que les deux sont dans des cases complètement séparées.
On reproche souvent aux féministes d'en faire trop, qu'il ne faudrait pas tout analyser, qu'il faut bien rigoler, qu'il n'y a pas mort d'homme, vous en parlez dans votre livre. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Si vous dites à Jean-Michel qu'il ne peut pas dire ça, Jean-Michel, il va dire « ça va, on ne peut plus rigoler ou quoi ?» Bon. Et donc là, vous pouvez regarder le Code du travail. Le Code du travail, il ne dit pas que les propos sexistes, s'ils sont drôles, sont autorisés. Que ce soit drôle ou pas, n'est pas la question. En fait, les propos sexistes sont interdits dans le cadre du travail à partir du moment où ils mettent des gens mal à l'aise. Donc juste, que ce soit drôle ou pas, ce n'est pas la question. On peut discuter à la machine à café ou le soir si on se retrouve dans un bar quand ils auront réouvert. De est-ce qu'on peut rire, est-ce que c'est drôle ou pas. C'est un débat qui est intéressant. Moi, je trouve pas ça drôle, une remarque sur les règles. Mais Jean-Michel, il a le droit de trouver ça rigolo. C'est son droit, en fait. Bon. Par contre, il n'a pas le droit de le dire au travail. Que ce soit drôle ou pas, n'est pas la question.
J'ai lu votre manuel en tant que femme, forcément, il m'a parlé. Ce que vous décrivez, c'est des situations qu'on vit et qui sont quasiment vécues par toutes les femmes. Elles sont peut-être pas à convaincre par ce que vous racontez dans votre livre, ou peut-être un peu moins. Mais par contre, les hommes, comment on fait justement pour leur faire comprendre tout ça ?
Alors d'abord, je pense moi que le fait d'être féministe n'est pas lié au fait d'être femme ou homme. Et qu'il y a plein de femmes féministes, il y a plein d'hommes féministes, et puis il y a plein de femmes et plein d'hommes qui ne sont pas féministes. Franchement, si toutes les femmes de France étaient féministes, ça fait longtemps qu'on aurait avancé plus vite, parce que je rappelle qu'on est majo quand même, hein, on représente 51% de la population. Donc pour moi, la question de l'engagement et des convictions n'est pas liée au fait qu'on soit femme ou homme. Alors évidemment, quand on est femme et qu'on lit ce manuel d'action pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles, ça peut rentrer en résonance, parce que je vais parler de faits qui concernent massivement les femmes. Mais pour moi, c'est vraiment une question plus de conviction, de connaissance, qu'une question d'être une femme ou un homme.
Aujourd'hui, on sent un vent de révolte, du changement dans l'air. Vous finissez d'ailleurs sur une note optimiste. Comment vous imaginez la suite ?
Moi, j'imagine qu'un jour, on en aura fini avec les violences sexistes et sexuelles. J'imagine qu'un jour, on aura à la tête de l'État une présidente ou un président féministe qui mettra en place des politiques publiques ambitieuses pour en finir avec les violences, et que tout le travail qu'on aura fait auparavant de faire monter le niveau de conscience dans la société sera un outil sur lequel le président ou la présidente pourra s'appuyer pour changer la vie.
Merci à vous, Caroline De Haas.
Merci beaucoup.
Le féminisme, ça a aussi été pour moi le moyen de reprendre le pouvoir, de réussir à quitter peu à peu tous les freins personnels qui m'empêchaient d'être sereine et heureuse. Mon rapport au corps, à ma confiance en moi, à ma capacité à changer le monde. Le féminisme, c'est une source d'énergie fabuleuse. Source d'énergie branchée sur les écrits et les témoignages de celles qui nous ont précédées et source d'énergie branchée sur les amis. Dans le féminisme, on trouve des amis, une sororité incroyable, un soutien permanent, critique, constructif. Un extrait du manuel d'action « En finir avec les violences sexistes et sexuelles » de notre invitée Caroline Dehas. Les bénéfices de la vente de ce manuel seront entièrement reversés au collectif Nous Toutes. À noter que le collectif propose des formations gratuites en ligne. Rendez-vous sur le site noustoutes.org. On se quitte avec le titre de Patti Smith, « People have the power ».
I was dreaming in my dreaming.